Bonjour. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire tourner la Terre un petit peu plus juste en essayant de comprendre comment fonctionne dans le monde l'agriculture et, par là même, l'alimentation des personnes. Daisy, pourrais-tu nous donner une définition ce qu'est l'agro-business aujourd'hui dans le monde?
Alors, je crois que vous savez tous ce que c'est le business, non? Les affaires. Donc, l'agro-business, c'est en fait les affaires, tout ce qui tourne autour de l'agriculture. Et on ne parle pas de la petite agriculture, mais des grandes exploitations, des hectares et des hectares de terres qui sont cultivées.
Alors, donne-nous un exemple d'agro-business dans le monde.
Je prendrais volontiers l'exemple de la culture de haricots. Donc, vous savez où vous mangez régulièrement des haricots, même en hiver, alors que ce n'est pas la saison. Et ces haricots sont cultivés au Kenya. Donc là, c'est pas cultivé comme dans le jardin derrière chez vous, autour de la maison. C'est cultivé sur des surfaces énormes, sur beaucoup, beaucoup d'hectares, avec de grosses machines, parfois en utilisant la main-d'œuvre pour récolter. Mais en général, on parle d'agriculture mécanisée. Et tout ça permet, ces cultures d'haricots dans les pays où il fait chaud, même en hiver chez nous, que nous puissions manger des haricots, même en hiver.
Donne-nous des bonnes raisons d'utiliser l'agrobusiness aujourd'hui dans le monde pour nourrir la planète, pour tenter de nourrir la planète.
Édouard, tu as dit le mot. En fait, l'agrobusiness va permettre de nourrir le monde. Donc, puisque nous travaillons avec des grosses machines sur de grandes surfaces de terre, on va pouvoir produire énormément. Et donc, on va pouvoir nourrir le monde. Ce qui n'est pas le cas pour le moment, hein, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de faim. On va pouvoir, avec toute cette production, exporter, donc manger toute l'année des haricots en hiver, des fraises, des oranges, tous les produits qu'on ne trouve pas chez nous, on va pouvoir en avoir à volonté toute l'année.
Mais cette culture doit être assistée par des éléments extérieurs, lesquels, par exemple, sont indispensables pour qu'on puisse produire plus et bien.
Alors, pour produire bien, il faut avoir de bonnes semences. Ça, c'est la base. Alors, dans l'agro-business, quelques firmes, vraiment, elles sont très rares, elles doivent être 6 ou 7 au niveau alimentaire, contrôlent, rassemblent toutes les semences et travaillent pour que ce soit de bonnes semences. Travaillent aussi pour avoir des engrais chimiques, pour avoir des pesticides, pour lutter contre les maladies. Et tout ça va permettre d'avoir effectivement de bonnes récoltes.
Bien sûr, pour que ça puisse pousser, il faut nécessairement de la terre. Alors cette terre, elle appartient à qui pour les entreprises agrobusiness? Comment ça fonctionne?
Alors pour l'agrobusiness, ce qui est important, ce n'est pas nécessairement d'avoir la possession, d'être propriétaire, mais ce qui est important, c'est d'avoir les terres à disposition pour cultiver. Donc les firmes de l'agrobusiness vont s'arranger avec les gouvernements pour louer pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, pour pouvoir exploiter cette terre-là et produire le plus possible. Donc, les maîtres mots, c'est produire, exporter et faire du bénéfice.
Daisy vient de nous montrer, de nous parler de l'agrobusiness et du coup d'une solution pour nourrir un petit peu mieux et un petit peu plus la planète. Dolores, elle va nous parler de l'agriculture paysanne familiale et qui a aussi des intérêts et des avantages pour nourrir la planète, surtout dans le sud.
Eh bien oui, donc l'agriculture paysanne familiale, imaginez mon petit paysan sur sa parcelle de terre au Burundi ou à Madagascar, par exemple. Le principe, j'ai une parcelle de terre, je vais cultiver quoi? Je vais diversifier mes cultures. Comme ça, je vais pouvoir manger à partir de mes cultures, et ce que j'aurai en trop, eh bien, je vais pouvoir le vendre au marché local. Ce qui veut dire que ma culture, mon travail, me permet de vivre, de manger, et d'avoir de l'argent, peut-être pour envoyer mes enfants à l'école. Je vais cultiver quoi? Je vais cultiver du riz, je vais cultiver des pommes de terre, je vais cultiver des haricots, je vais cultiver des oignons. Et comment vais-je faire pour cultiver tout cela? Je ne vais pas aller acheter de graines, Elle coûte beaucoup trop cher pour moi. Donc je vais faire comme tous les paysans ont toujours fait depuis qu'on fait de l'agriculture. Je vais récupérer des semences de l'année d'avant pour les replanter l'année qui suit. Je vais faire quoi pour améliorer la qualité de ma terre? Eh bien, je vais utiliser de l'engrais organique. Donc je vais essayer d'avoir du petit bétail, une chèvre ou bien une vache, de faire du compost à partir du fumier de mon animal, de mes déchets végétaux. Comme ça, ça ne me coûte rien du tout. Il faut bien vous dire qu'à l'agriculture paysanne familiale, je n'ai pas énormément de revenus.
Et la terre, est-ce qu'elle t'appartient ?
Oui, elle m'appartient en grosse partie, mais ma surface est vraiment minime, tu sais, Edouard. Elle fait quoi ? Entre un demi-hectare à 2 hectares maximum. Et donc, ce qui veut dire que si j'ai 7-8 enfants, c'est pas terrible. Mais elle m'appartient, ou en tout cas, elle appartient à ma communauté, à ma colline, à mon village, et on cultive tous ensemble, en fait, sur cette parcelle de terre.
Est-ce que tu cultives la même chose sur toute ta parcelle de terre, ou est-ce que tu as différentes variétés de légumes, de fruits, et ainsi de suite ?
J'ai plusieurs variétés, et j'essaie en tout cas de cultiver, d'avoir des arbres fruitiers et en même temps d'avoir des légumes, etc., justement pour diversifier, puisque si je ne cultive par exemple que, je ne sais pas moi, que des haricots et que j'essaie de les vendre, ben je ne vais pas me nourrir que de haricots, j'ai besoin d'autre chose en tout cas et de diversifier. Alors il faut se dire aussi que avec l'agriculture paysanne familiale, on essaie de se mettre ensemble et peut-être aussi à certains niveaux de se mettre en association et de cultiver de manière globale et de manière communautaire.
C'est important aussi pour les paysans ce type d'agriculture parce qu'ils peuvent rester là où ils sont, sur leur territoire, dans leur village et développer peut-être, comme tu disais très bien, un aspect de village au point de vue commercial mais aussi au point de vue communautaire.
Oui, tout à fait. Si nous sommes chacun, donc plusieurs ménages, avec notre parcelle de terre, il est clair que la vie de village est en route. On peut créer une vie sociale, on peut créer une vie culturelle, on peut y mettre une école, et ce qui veut dire que là, on a un pôle qui se développe de manière naturelle, entre guillemets, puisque chacun vit de sa terre, vit de ses mains, là où il est, et peut vivre dignement, en tout cas, de sa culture, et ne pas attendre une aide extérieure ou quoi que ce soit.
À la campagne, il y a toujours un truc à faire. Aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air. À la campagne, on se fout des horaires. Comme les maisons du même nom, c'est secondaire.
Donc j'ai bien compris les deux arguments de l'agrobusiness d'une part et puis de la petite culture paysanne locale. Mais à côté de ça, il me reste des questions bien pratiques dans la vie de tous les jours. Alors, toi Daisy qui nous a parlé de l'agrobusiness, comment réagis-tu à cette idée de manger des fraises à Noël ?
Je dirais que c'est magnifique. Plus, je vous l'ai dit, plus en agrobusiness on peut produire, le but ultime étant de faire du bénéfice. S'il y a des clients pour manger des fraises en hiver, on vous fournira des fraises en hiver.
Et toi Dolores, si tu étais une agricultrice dans la région namuroise à Ouépion en train de produire des fraises, comment tu réagirais par rapport au fait de se dire que j'ai envie de fraises au pied de mon sapin de Noël ?
Eh bien moi je dirais ne mange certainement pas des fraises à Noël au pied de ton sapin, parce que non seulement elles auront coûté énormément en énergie, en eau et en transport. Alors fais un effort, attends les fraises du mois de juin de Ouépion qui auront eu du soleil et qui auront été cultivées dans un environnement correct et en respect avec la nature.
Les fraises, on les trouve au nord et au sud, mais par exemple, je ne vois pas beaucoup d'oliviers en Belgique. Alors si j'ai envie d'olives le 1er janvier, par exemple, toi, la représentante de l'agrobusiness, qu'est-ce que tu me dis ?
De nouveau, Edouard, l'agrobusiness va fournir les olives. Alors qu'elles viennent de Sicile, qu'elles viennent de Grèce, je veux dire, pour moi, j'irai les chercher là où elles coûtent le moins cher. Pour moi, agrobusiness, ça ne veut pas dire que le prix sera correct et accessible pour le client, mais ça, ce n'est pas trop mon problème. Moi, mon principe, c'est de vendre.
Et toi, il n'y a pas d'olivier en Belgique, on se disait, mais qu'est-ce que tu me conseilles au nom de la petite agriculture locale qui se développe pour trouver de bonnes olives avec mon apéro du 1er janvier ?
Écoute, moi, pour ton apéro du 1er janvier, oui, je veux bien que tu aies des olives, même si tu pourrais trouver autre chose, mais je me dis qu'en France, dans le sud de la France, qui n'est pas encore très très loin, il y a des producteurs d'olives. Et donc, pourquoi alors ne pas aller chercher tes olives le moins loin possible pour que ton impact et ton empreinte carbone soient la moins grande possible? Mais entre nous, Édouard, bon, ton apéro du nouvel an, prends autre chose que des olives.
Finalement, que vaut-il être? Un ouvrier qui travaille pour une entreprise agrobusiness dans des champs immenses avec beaucoup de machines, ou être un petit paysan local qui vit bien et qui développe sa propre agriculture? Dolorès.
Alors c'est à moi que tu poses la question, donc moi j'aurais envie de te dire qu'il vaut mieux être un petit paysan qui vit de sa propre agriculture. Alors pourquoi? Parce que je vis de ma terre, je vis de mon travail. Je fais en sorte de ne pas être coincé par des investissements qui me dépassent. Je vis de manière simple, avec mes produits sains, avec... J'essaie d'éviter des engrais qui sont chimiques et mon travail me permet de vivre dignement. Alors je dis quoi par dignement? C'est-à-dire que je reconnais la capacité de mon travail, j'y mets toute la valeur qu'il peut me donner et ce travail de la terre a un sens primordial pour moi. Évidemment que tout ce que je viens de dire n'est pas la réalité, mais c'est à ça qu'on voudrait arriver. Et ce ne sera possible que si on s'organise, ce ne sera possible que si on se met ensemble.
Moi, je dirais un contrario. Mieux vaut être un ouvrier avec un salaire régulier sur de grandes parcelles et avoir un salaire qui tombe tous les mois de manière régulière au service d'une grande entreprise qui, elle, organise le commerce, qui achète les semences, qui achète les engrais. Et donc, je ne me pose pas de soucis.
Est-ce que tu fais encore de l'agriculture, alors? Est-ce que tu te rends encore compte que tu produis quelque chose de naturel, avec des éléments naturels, et qui va faire vivre les gens de manière naturelle?
Je suis ici dans la position de l'agrobusiness. L'agrobusiness, je vous l'ai dit en commençant, c'est le business de l'agriculture, avec comme but premier de produire. Alors, on ne parle pas de qualité, ça, c'est pas vraiment le souci de l'agrobusiness. Moi, c'est produire des aliments, c'est les exporter, pour faire en sorte d'avoir le plus grand nombre de clients et le plus grand nombre de bénéfices. Les côtés éthiques, les côtés de vivre dignement de son travail, c'est pas ma préoccupation.
Eh bien, on va en rester là. On a pu entendre les arguments en faveur de l'agrobusiness, on a pu entendre les arguments en faveur des petits paysans d'une agriculture locale. Je dirais volontiers à vous de jouer, à vous de choisir, à vous de faire les achats qu'il faut pour que la terre tourne plus juste, et notamment avec l'entraide des matériaux.